Paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, un Paddock RMC spécial hors série puisqu'on a un invité exceptionnel aujourd'hui avant le E-Prix de Monaco. Ça va se dérouler ce week-end du côté de la Principauté. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez bien évidemment essayer de prendre encore des billets. Ce Grand Prix mythique de la Formula E, on en parle beaucoup de la Formula E, nous dans le Paddock RMC depuis le début de saison. Il y a ce débat parallèle entre la nouvelle réglementation de la Formule 1 et la Formula E. Et on a un pilote français qui a roulé 3 saisons en Formule 1 avec nous, qui est un des tauliers de cette Formula E, double champion de Formula E, Jean-Éric Vergne. Salut Jean-Éric.
Bonjour, bonjour.
On est ravis de t'accueillir. On va pouvoir faire un point sur cette E-Prix de Monaco, sur ta saison, sur le développement également de cette catégorie, de ce sport. Et bien évidemment, on va faire le parallèle avec toi. Tu vas nous aider vraiment à comprendre si ce que disent les pilotes de Formule 1, c'est vrai. Est-ce que ça se rapproche de plus en plus, cette nouvelle Formule 1, de la Formule E? On a besoin d'avoir ton éclairage. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement, que vous n'oubliez pas de liker la petite page Instagram Paddock RMC pour retrouver tous les extraits du Paddock RMC. Séraphin, t'es prêt? On y va?
Et c'est parti.
Allez, let's go les amis. Bon, première question, Jean-Éric, je le disais, on te reçoit quelques jours d'un rendez-vous mythique, hein, le E-Prix de Monaco. J'imagine que ça représente toujours quelque chose de spécial de rouler à Monaco, ce circuit chargé d'histoire, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu roules dessus, c'est toujours un moment unique dans une saison.
Ouais, bah, c'est une certitude. Après, il n'y a pas beaucoup de catégories sport auto qui ont la chance de rouler à Monaco, donc évidemment il y a la F1, les catégories juniors à la F1, la F2 et la F3. Il y a le Grand Prix historique et on a la Formule E, donc ça fait maintenant 10 ans qu'on vient à Monaco avec la FE, et c'est sûr que c'est toujours un moment spécial, c'est toujours la course préférée de tous les pilotes, on va dire, de la saison.
T'as déjà gagné là-bas, je crois, si je me plante pas, c'est même en termes de pilotage pour vous, c'est une épreuve à part dans la saison.
Bah, c'est un circuit pour nous en Formule E assez grand, on va dire, parce qu'on a l'habitude d'aller sur des circuits un peu plus petits que ça. C'est un circuit assez haute vitesse finalement pour nous, alors que la F1 c'est plutôt le contraire. C'est un circuit où il y a énormément d'opportunités de dépassement en course, contrairement à la F1. Je ne me rappelle pas exactement des chiffres exacts, des nombres de dépassements qu'il y a eu sur les courses ici en FE, mais il y en a beaucoup. Voilà, ça donne des courses plutôt exceptionnelles, énormément de fight. Et je pense que les fans qui viennent voir ces courses-là, ils s'ennuient pas, ça c'est une certitude.
Ouais, Séraphin, tu as une question pour Jean-Éric.
Oui, Jean-Éric, et justement, Monaco aussi, vous l'avez dit, c'est un tracé où tous les pilotes, et notamment très jeunes en monoplace, ont eu l'occasion de rouler. Donc c'est vrai que, est-ce que gagner Monaco reste, même en Formule E, le Grand Prix le plus prestigieux, on va dire, pour un pilote, de le remporter?
Je pense que oui, quand même. S'il y a une course dans l'année, on vous dit, ok, tu es capable de gagner uniquement une course, laquelle tu choisis. Je pense qu'à peu près 99% des pilotes vont choisir Monaco.
Et en plus, on rappelle, vous avez deux courses sur le week-end, hein, puisque le week-end, il y a le samedi et le dimanche.
Oui, totalement. Les deux courses qui ont donc la même importance, qui donnent le même nombre de points. La première course, donc celle du samedi, c'est celle avec un pit boost. Donc en général, c'est une course un peu plus sprint, on va dire, dans le sens où on a pas mal plus d'énergie grâce au pit boost. Et donc du coup, l'énergie sec qu'on doit faire à partir du premier tour est moindre que la deuxième course. Donc la deuxième course, c'est là où il y a un peu plus de stratégies différentes, où des pilotes, par exemple, qui vont rester à l'arrière début de course, vont sauver plus d'énergie que ceux de devant. Et ensuite, il y a toujours pas mal de remontadas qui peuvent avoir lieu plus facilement sur la course numéro 2 que la course numéro 1.
Ouais, bah, ce qu'on comprend dans ce que tu nous dis, c'est que c'est spectaculaire. En tout cas, on s'attend à avoir beaucoup plus, et il y a beaucoup plus de dépassements en Formule E qu'en F1. Tiens, Jean-Éric, parlons un petit peu de ta saison. Tu roules pour le team Citroën Racing. Je crois que c'est la 9e manche à Monaco de cette saison. Quel bilan tu fais là de ton début de saison? Où est-ce que tu en es dans bah dans cette saison qui n'est pas super évidente en termes de résultats, moi j'ai la sensation, par rapport à ce que tu as pu vivre dans les années précédentes.
Bah, c'est ma 11e, je crois 10e ou 11e saison en FE, et je crois que c'est de loin la pire saison que je vis. Alors, je ne suis pas le genre de pilote à vouloir toujours trouver des excuses, donc je vais pas m'arrêter sur les excuses, même si malheureusement il y en a. Après, ça peut être de côté malchance, côté moi, côté équipe. Mais la réalité, c'est que ouais, non, ce début de saison est pas bon. Il reste une moitié de saison pour remonter la pente. Monaco, ça a toujours été un circuit qui m'a réussi, donc j'espère pouvoir inverser la tendance. Après, c'est aussi la dernière année de cette Gen 3. L'année prochaine, on passe à la Gen 4. Chose qui est pas, c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Mais non, je pense que ouais, début de saison plutôt compliqué.
Ouais. Ouais, ça va être quoi le changement là, Gen 4, Gen 3, il y a beaucoup de choses qui changent hein, l'année prochaine, Jean-Éric.
Ouais, c'est complètement une toute nouvelle voiture, nouveau powertrain, nouvelle réglementation, des voitures beaucoup plus grandes, plus larges, plus d'aéro, plus de puissance, 600 kW, là cette année on est à 350, on passe non-stop en 4 roues motrices, donc c'est des voitures qui vont quand même aller beaucoup plus vite, beaucoup plus impressionnantes. 600 kW, 4 roues motrices sorties des épingles, il n'y a aucune voiture que j'ai roulée de ma vie qui accélère aussi fort. Ça accélère ouais. Plus fort qu'une F1. Évidemment, les F1 vont continuer à aller plus vite sur le tour parce qu'il y a quand même beaucoup plus de charge aérodynamique et ça va quand même beaucoup plus vite dans les virages rapides. Mais tout ce qui est freinage et accélération, c'est vraiment impressionnant, ces nouvelles voitures.
Ça a faim.
Oui, et surtout, cette nouvelle génération, vous l'avez dit, il y a cette récupération aussi qui augmente. Hein, on passe de 700 kW en récupération. Est-ce que aussi, du coup, pour le pilotage en tant que pilote, ça va aussi évoluer avec des voitures justement plus puissantes, plus lourdes, avec plus d'aéro, là, tout augmente et on se rapproche de plus en plus de performances de Formule 1. Est-ce que le pilotage va aussi évoluer avec ça?
Ouais, le pilotage va évoluer, c'est sûr. Le fait d'être non-stop en 4 roues motrices, ça change quand même pas mal les choses. On peut rentrer plus fort dans les virages. Comment on passe le milieu de virage, finalement, maintenant, ça importe plus trop parce que bah, vous mettez à fond, ça vous catapulte à la sortie du virage. Donc, c'est quand même. J'ai roulé pour la première fois dans la Gen 4 la semaine dernière en test en Espagne. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à rouler dans une voiture. C'est vraiment c'est une différente, c'est limite une différente catégorie. Ça s'appelle toujours Formule 1, mais c'est vraiment un step énorme. C'est une différence de fou qui va y avoir. Donc je pense que c'est un virage important que prend la FE. La FE va arriver dans une nouvelle ère grâce à cette voiture. Je pense que pas mal de pilotes de F1 avaient regardé cette Gen 3 en étant un peu dubitatif. Et ces mêmes pilotes dubitatifs regardent la Gen 4, ont vu les performances, commencent à dire « Ah ouais, là, ça commence à parler, quoi. »
Ouais, c'est clair. Bah, on va y aller tout de suite, du coup, sur cette passerelle, cette parallèle entre la Formule 1 et la F1. J'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de la FE que depuis qu'il y a eu ces punchlines de Verstappen en début de saison. Ça a braqué un peu les projecteurs sur tout ça. Jean-Éric, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as la sensation que la F1, c'est vrai que ça se rapproche de ce que vous vivez? Ou tu le disais quand même, c'est bien différent, c'est Verstappen qui exagère. C'est vrai que nous, on avait du mal à savoir le vrai du faux dans les déclats de Verstappen, les punchlines, quand il dit que la F1 était une Formule E sous stéroïde.
Un petit peu. Après, moi, je vais pas trop juger la F1 dans le sens où j'ai pas roulé dans ces voitures, donc je vais pas m'amener à les juger. Mais ce qui est vrai, c'est que la F1, avec leur choix de réglementation technique de passer en 50-50 thermique électrique, est un peu incompréhensible auprès des pilotes, auprès des fans aussi. Et cette histoire de super clipping, les gens la comprennent pas trop. Nous, c'est quelque chose qu'on vit avec en FE. Tout le monde est au courant de la manière comment ça se passe. Évidemment, la F1, personne n'a l'habitude de voir des F1 arriver à 320 au milieu de ligne droite et puis arriver taper les freins à 270. C'est vrai que c'est un peu bizarre, ça crée un peu de confusion chez beaucoup de personnes. Après, voilà, je pense que tout le monde va s'habituer. Ça a toujours été la même chose après. Hein. Enfin, chaque fois qu'il y a des nouvelles réglementations,
ouais,
les gens la décrivent pas mal, les premières courses, et puis après, finalement, tout le monde s'y habitue, quoi.
Toi, t'as galéré à switcher là quand t'es sorti de la Formule 1, que rapidement t'es allé en Formule E. T'as galéré à switcher sur cette notion de gestion d'énergie. On voit que là, c'est capital hein, dans cette saison de Formule 1. Vous, c'est votre quotidien, tu le disais, la gestion de l'énergie. C'est en train de devenir une compétence clé en F1. Est-ce que ça t'a demandé un vrai temps d'adaptation?
Ouais, ça a demandé un vrai temps d'adaptation, mais aussi de la part des équipes, la compréhension sur le software et sur l'Energy Save qu'on a à faire est quand même assez extrêmement poussée. Et quand bien même Mercedes, on peut dire qu'ils ont la meilleure voiture, le meilleur powertrain, je pense que leur expérience qu'ils ont eue en FE, parce qu'ils construisent aussi des moteurs en FE, ils ont des ingénieurs qui ont été sur le programme FE. Le fait que les premières courses, ils les gagnent aussi facilement, je pense qu'il y a quand même eu un avantage à Mercedes d'avoir fait de la FE et d'avoir vraiment bien compris comment se passait le software sur les systèmes de récupération d'énergie, sur le déploiement, que certaines autres équipes mettent un peu plus de temps à comprendre.
Ouais, c'est clair. J'ai une question un peu... parce que bon, nous, c'est vrai que du coup, forcément, avec ces déclats du début de saison, on s'est encore plus penché avec Séraphin et avec toute la team du paddock RMC sur la FE, même si on regardait et on avait un œil assidu sur ce que vous faites. Mais si tu dois expliquer, Jean-Éric, à un fan de Formule 1, là, pourquoi il doit regarder la FE aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais, quoi? Comment tu vendrais un petit peu la FE qui est en plein développement?
Je sais pas trop répondre à cette question, mais je dirais que si vraiment c'est un fan de F1 et qui comprend plus trop ce qui se passe en F1 à cause de l'énergie, qui regarde une course de FE, il comprendra que finalement la F1 c'est pas si compliqué que ça au niveau de la compréhension de la gestion d'énergie. Et je pense que le step qu'on va avoir l'an prochain avec la Gen 4, ça va vraiment impressionner les gens et rien que par rapport à ça, je leur dirais de regarder les courses d'aujourd'hui, de ne pas trop les juger et de regarder ce qui se passe avec la nouvelle voiture à la première course de la prochaine saison.
Ouais, c'est clair. Et puis en plus, vous avez un plateau en termes de densité de pilotes. Moi, j'ai l'impression que chaque année, il y a des pilotes avec de solides références qui rejoignent la FE. Enfin, tu sens qu'il y a une densité désormais. Ce qui peut expliquer aussi parfois ta saison un peu difficile, c'est qu'il y a enfin, désormais, si ta voiture n'est pas au rendez-vous et tout ça, tu ne peux plus performer, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de place à l'erreur maintenant en FE.
Il y a plus de place. Un dixième de perte en qualif, c'est la différence entre partir sur la première ligne versus P15, P16. C'est vraiment très serré. Le niveau des pilotes est très élevé en FE. Je pense, et ça, c'est même pas moi qui le dis, mais pas mal de pilotes de F1, enfin, on s'accorde tous à dire pour dire que les top 10 de la FE valent les top 10 de la F1, et je pense que si vous mettez n'importe quel pilote de top 10 en F1 dans une bonne équipe en F1, il sera devant, et vice versa pour les pilotes de F1. Je pense que non, c'est un niveau extrêmement élevé, pareil au niveau des équipes. Évidemment, c'est un niveau qui s'élève de plus en plus année après année, et ça rend la compétition superbe.
Moi, ce que je voulais savoir, c'est que justement, vous êtes Jean-Éric, vous êtes quand même double champion hein, de Formule I, et vous avez connu le développement depuis le tout début de son championnat. Donc, comment justement il a évolué? Parce que quand tout à l'heure vous avez dit que vous avez pu essayer ces Formula I de quatrième génération hein, qui seront à partir de la saison 2026-2027, comment justement vous avez vu évoluer ces voitures, toute la réglementation pour aujourd'hui atteindre des voitures qu'on compare vraiment en performance à des Formule 1?
Moi, je pense que l'évolution, alors il y a deux choses, il y a l'évolution du championnat de la F1 en règle générale et l'évolution des voitures. L'évolution du championnat a été plutôt fulgurante les 4-5 premières années. Ensuite, on a connu le Covid, et je pense que le Covid a fait beaucoup de bien à la F1 et au contraire a fait beaucoup de mal à la FE. Il y a eu aussi l'effet Netflix qui arrivait en F1 post-Covid, enfin pendant le Covid. Et en plus de ça, la génération 2 de la Formule E a fait un step énorme de la Gen 1 à la Gen 2. Et la Gen 3, c'était un peu plutôt le contraire. Pour moi, c'est une voiture qui allait à contresens. C'était une voiture que j'ai jamais réellement aimée, que ce soit la regarder ou que ce soit la conduire. Les pneus aussi sont des pneus très compliqués. Et je pense que ça fait aussi un peu de mal au championnat d'avoir des voitures comme ça. Je pense que la Gen 4, finalement, c'est, comme je le disais avant, c'est un step énorme en avant. C'est une vraie belle grosse voiture de course avec des vraies performances qui font parler d'elle. Et le championnat est en train de redécoller. Il y a un intérêt renaissant de la part des constructeurs. Il y a un énorme intérêt aussi de la part des propriétaires qui sont Liberty Global, qui investissent beaucoup et qui se donnent à fond pour faire en sorte que la FE grandisse énormément. Donc je pense que là, on est dans une nouvelle ère qui démarre. Et qui va vraiment grandir, quoi.
Ouais, la Gen 3, donc on a compris, c'est peut-être la voiture depuis que t'es en Formule E qui t'a le moins fait kiffer, sur laquelle t'as pris le moins de plaisir. Est-ce que tu te fixes encore des objectifs, Jean-Éric, avec cette Gen 4? Est-ce que tu te vois encore rouler combien de temps dans cette Formule E qui est en plein développement?
Disons que si la FE avait décidé de continuer avec sa Gen 3 pendant longtemps, je pense que j'aurais arrêté la FE et j'aurais fait du Wake ou j'aurais fait quelque chose d'autre, parce que c'est vraiment pas une voiture qui m'enchante beaucoup. Après, avec cette nouvelle Gen 4, je pense que je suis reparti pour longtemps. Bon, après, évidemment, il faut que je performe. Hein. C'est toujours la même chose. Si je fais encore des années comme celle-là, il n'y a pas trop de raison de me garder. Après, je pense que j'ai assez confiance en moi, je sais ce qui s'est pas bien passé sur le début de l'année, donc je sais que voilà, la vitesse est toujours là, les ambitions sont toujours là, la motivation est toujours intacte. Donc je pense que je suis arrivé dans une nouvelle équipe Citroën cette année pour la mettre en place et pour que dès l'année prochaine, on ait vraiment une équipe extrêmement solide, qu'on ait absolument aucune raison de pas performer l'année prochaine avec cette nouvelle voiture. Et l'objectif, il est très clair, c'est d'aller gagner des championnats du monde à partir de l'an prochain avec cette Gen 4. Ça, c'est très clair. Pour cette année, je pense que c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, on fait une saison maintenant, on va dire, sans trop de pression. Je pense qu'on va vouloir évidemment performer, aller gagner des courses, faire des podiums. Mais c'est la manière dont je la vois maintenant, c'est mettre en place toute l'équipe et se préparer pour l'année prochaine.
Putain, Jean-Éric, on est dans les dernières questions là, de cette interview, de ce podcast. Si je te dis Monaco en Formule E ou Monaco en F1, qu'est-ce que tu préfères?
Monaco en F1 pour la qualif et Monaco en F1 pour la course.
Si je te demande le meilleur souvenir là, de ta carrière de pilote globalement en monoplace.
Meilleur souvenir, ouais, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai beaucoup. Alors, j'ai plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Bon, ça, je pense que c'est un peu pour tous les pilotes pareil. Mais je dirais un souvenir qui pop-up là, comme ça, c'était ma victoire à Paris en F1.
Ouais, c'est vrai que celle-là, c'était assez incroyable. Même l'engouement qu'il y avait, la médiatisation qu'il y avait.
C'était incroyable. Il y avait un monde de fous devant le podium, entendre la Marseillaise en plein cœur de Paris gagner pour cette équipe. C'était un moment top.
Et si je te demande, dernière question, un objectif qui te reste absolument à accomplir?
Objectif absolu. J'ai la chance d'avoir un peu tout gagné en FE, j'ai envie de quitter la FE en écrivant mon nom un peu plus fort qu'il ne l'est en ce moment dans les livres de l'histoire du championnat. Donc gagner un autre championnat ou deux, c'est quand même ce sont mes objectifs.
Ce serait pas moche de terminer comme ça. Séraphin, une dernière question.
Et moi, je me demandais, Jean-Éric, quand vous avez arrêté la F1, vous avez continué chez Ferrari, vous étiez pilote de développement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une écurie de Formule 1, et on le voit aujourd'hui avec l'importance de cette réglementation, vous approchez pour justement venir aider à développer ces voitures? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser?
Alors non, c'est quelque chose que j'ai arrêté à faire parce que ça ne m'intéressait absolument plus de rouler dans le simulateur F1 et aller sur les circuits, prendre des cafés et regarder les copains rouler, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait à faire. Après, je sais qu'il y a beaucoup de pilotes de FE qui ont des rôles, que ce soit chez Mercedes, chez Ferrari, chez McLaren. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'un bon, un bon tiers de la grille FE a un rôle de pilote de simulateur en F1.
Bon, merci beaucoup Jean-Éric, c'était un plaisir de t'avoir. On te souhaite un bon e-prix de Monaco. On espère que ça va le faire pour cette fin de saison. Et on va te suivre bien évidemment avec cet objectif des Gen 4 la saison prochaine. Merci beaucoup Jean-Éric Vergne. Séraphin, bah, très sympa franchement ces petits hors-séries comme ça, là, quand on peut avoir des invités dans le paddock RMC.
Bien sûr.
Franchement on se régale.
Surtout
hein,
double champion de Formule I donc faut, et qui est français, donc il faut bien évidemment en parler.
Français, double champion de Formule I, 3 saisons de Formule 1. Il a roulé avec Daniel Ricciardo. Il a même dominé Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne. On n'a pas trop parlé de sa carrière de F1 avec lui parce que ça date, mais pas n'importe qui. Hein. Les amis, si vous aimez ce genre de format, bien évidemment, vous venez échanger avec nous des petits likes. Si vous aimez aussi, si vous voudriez qu'on développe d'autres thématiques dans les interviews, vous n'hésitez surtout pas à nous le dire. On fait ces contenus-là pour vous. Sinon, rendez-vous sur la page Instagram Paddock RMC. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est Raphaël. Hein, warm-up du Canada. Dès jeudi, ça va repartir pour cette saison de F1. Ciao, ciao les amis.
Ciao, ciao.
Le Paddock RMC.